Résumons-nous. Avec l'annexion de la Croix-Rousse à la commune de Lyon, la colline qui travaille connaît une période de prospérité économique et de grands travaux. Ainsi, pour favoriser les échanges, des rampes sont percées entre les voies. Les murs des fortifications sont abattus et remplacés par le boulevard. Mais aussi sont creusés deux funiculaires, surnommés les ficelles. L'une partant du Jardin des Plantes, dont l'usage coûte 2 sous, l'autre partant de Croix-Paquet, coûtant 1 sou. Ficelles dont le creusement mit à jour un gros caillou sommeillant dans la pouzzolane. De leur côté, les canuts dotent souvent leurs bâtiments de traboules. Ces étroites voies traversant un ou plusieurs bâtiments, reliant une rue à une autre, tissant ainsi un réseau et un tissu social propre à ce quartier. Et propre à déjouer des filatures qui ne leur plairaient pas. Ainsi, en période trouble, c'est l'occupant qui risque de filer un mauvais coton.
Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération.
Ici, la fréquence éphémère. En zone non occupée, le patriote écoute le feuilleton véridique et sociétaire sur Radio Canu, une onde libre.
Alors voilà, on est place de la Comédie, on est en compagnie de Denise Domnac, la Litch, et on va se promener un petit peu dans le quartier des pentes de la Croix-Rousse, sur les traces un petit peu de ce qu'a été l'histoire et les lieux importants, les lieux secrets de la résistance. Vous nous avez donné rendez-vous, place de la Comédie, qu'est-ce qui s'est passé ici ?
Alors, en ce lieu se déroula une évasion assez connue, celle de Claudius Billon. Claudius Billon avait alors 47 ans. Il entra très vite dans la résistance parce qu'il ne supportait pas le régime de Vichy. Et le 1er février 1943, il fut arrêté par la brigade antiterroriste de la police française, s'il vous plaît, place Raspail, à Lyon. Et puis, il a été emmené à Vichy, ramené par les Allemands. Et il avoua un rendez-vous imaginaire avec un responsable de la résistance sous le péril style du Grand Théâtre, qui est devenu aujourd'hui l'Opéra. Et il faisait semblant de coopérer avec la Gestapo. Et puis, tout d'un coup, il y a deux trams qui se sont croisés. Il en a profité d'un saut. Il est passé entre les deux tramways, car il y avait un virage, la rue de la République. Et il a réussi à s'échapper par une traboule qui était au 27 de la rue Puy-Gaillot. Alors, par la rue du Griffon et la rue Désiré, il rejoignit des traboules qui le conduisirent jusqu'à la Croix-Rousse. Il se croyait sauvé. Malheureusement, il a été dénoncé et il a été arrêté 2 jours après. Il a été transféré à Vichy. Il s'est, paraît-il, je mets un point d'interrogation, il s'est, paraît-il, suicidé et on n'a jamais retrouvé son corps. Mais cette évasion est devenue célèbre et a rendu célèbre les traboules de Lyon, voilà.
Vendredi 10 janvier 1941. J'entends sans arrêt passer des avions, et nous attendons les Boches d'un instant à l'autre, car les bruits les plus alarmants circulent. On dit que l'armistice n'était que de 6 mois, et que les Boches n'attendent qu'une occasion pour nous sauter sur le rable. Pendant les vacances, nous avons écouté De Gaulle parler à la TSF, car je suis gaulliste, et mon père et mes frères aussi. Je porte une petite croix de Lorraine, attachée au bracelet de ma montre.
Alors nous allons nous arrêter une minute devant le numéro 3 de la rue du Garret, qui servait de boîte aux lettres. Voilà le numéro 3. Alors ici se trouvait une boîte aux lettres qui était utilisée par le service social du mouvement Combat. Elle était utilisée par Colette Peck, qui a été remarquable dans son organisation du travail social, car il fallait bien aider les familles dont le père avait été arrêté parce qu'il n'avait plus d'argent, plus de nourriture. Et alors elle envoyait, elle avait des jeunes agents de liaison qui étaient avec elle, elle les envoyait chercher de la nourriture à la campagne, puis elle distribuait des colis et de l'argent aux familles qui étaient complètement démunies.
Juste, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce système de boîte aux lettres? Vous avez participé à ça. Comment ça s'organisait? Qu'est-ce que c'était qu'une boîte aux lettres?
Alors, les boîtes aux lettres étaient parfois des vraies boîtes aux lettres. Une boîte aux lettres inutilisée dans un immeuble sur lequel on mettait un nom d'emprunt et dans laquelle on pouvait faire passer des messages ou des papiers confidentiels. Quelquefois, c'était la boîte aux lettres d'un ami qui acceptait de prêter sa boîte aux lettres. Mais souvent, c'était des magasins. Moi, je sais que quand je transportais des tracts, j'allais les porter dans ce qu'on appelait une boîte aux lettres. En fait, c'était un magasin. Et d'autres, des diffuseurs, venaient chercher les tracts que moi j'avais portés depuis l'imprimeur jusque dans ce magasin pour les distribuer. Donc les boîtes aux lettres nous ont été très utiles. Mais parfois, bien sûr, elles ont servi pour des arrestations. J'étais agent de liaison jusqu'à ce que les troupes allemandes envahissent la ligne de démarcation et occupe la zone libre. Et là, nous étions poursuivis par la police française, surtout, et c'était nettement moins dangereux, donc on pouvait encore faire des manifestations. À partir du 11 novembre 1942, nous étions surveillés par les nazis, puis il y a eu la création de la milice, la Gestapo était avenue Berthelot. C'est devenu beaucoup plus compliqué. Et puis moi, j'ai changé, je suis sortie du secondaire, j'avais passé mon bac. Et je me suis occupée de faux papiers ensuite.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.
Vendredi 16 janvier 1942. J'irai peut-être une sauterie dimanche 1er février chez un ami de Minou. Il ne m'a pas encore invité, mais je pense que ça ne tardera pas. Hier, j'ai mis des bas, pour la première fois de ma vie, des bas de soie naturels à 65 francs. C'est un peu cher, mais pour danser, c'est tellement plus joli que les chaussinettes.
Alors nous continuons dans la rue du Garret et nous allons arriver devant un petit café, un bouchon lyonnais, qui a été fréquenté par Jean Moulin. Le Garret, oui, c'est ici. Oui, c'est ici.
Bonjour madame, bonjour.
Donc le décor est resté le même malgré un changement de patron.
Jamais on n'a touché à la décoration, madame, depuis 1918.
Des amis m'ont dit que Jean Moulin avait l'habitude de s'installer ici.
Oui,
et souvent avec son secrétaire Daniel Cordier.
Tout à fait, madame. Tout à fait, c'est une vérité même. Ils déjeunaient régulièrement à cette table-là, puisqu'ils étaient protégés d'une part par le rideau que vous avez derrière vous, qu'on voit quand on le ferme. Et s'il y avait le moindre problème, ils partaient par derrière, puisqu'on était en relation directe avec la cour. Donc ils partaient tout de suite dans les premières traboules des pentes de la Croix-Rousse. Et d'après M. Cordier, il aurait pris son dernier déjeuner, Jean Moulin, à cette table-là avant d'être arrêté à Calais.
Merci.
Mais je vous en prie, madame.
Oui, et la photo de Jean Moulin, le trône.
Alors voilà, on est juste, quand on rentre dans le bistrot, juste à droite, il y a une petite plaque qui dit qu'à cette place, s'asseyait toujours Jean Moulin, héros et chef de la résistance française 1940-1944. Là, il y a une vieille banquette en cuir avec un portrait de Jean Moulin, la photo très connue de Jean Moulin, dos au mur avec son chapeau feutre sur la tête.
C'est pas mal ça, hein? On repart de l'autre côté. J'ai un peu effacé tout ce qui s'est passé à cette époque. Parce qu'il fallait apprendre à vivre à nouveau et que c'est vrai qu'il y a eu des tas de changements dans ma vie que c'était pas très facile. Voilà. On voulait pas se prendre pour des anciens combattants, ça nous déplaisait beaucoup. Donc on s'est occupé de rien et c'est le procès Barbie qui vraiment a réveillé ma conscience. Et puis aussi le fait qu'en 99, j'ai retrouvé 3 cahiers où j'avais tenu mon journal. Et j'ai été tout à fait surprise en les relisant. Et ensuite, par des amis, un de mes neveux, bon, ça a été édité. Et ça m'a replongée dans toute cette période. Voilà. Mais entre-temps, j'avais oublié beaucoup de choses.
Mardi 27 janvier 1942. Quelquefois, je me dis que si la guerre continue encore longtemps, je vais en mourir sans avoir vécu, sans avoir aimé. 19 juin 1942. J'ai passé le bac hier et avant-hier. J'ai assez bien réussi. J'espère rattraper les maths avec le français et le latin. Jean et Gilbert Dru m'ont un peu prise en main. Ils veulent que je devienne sérieuse parce qu'ils ont besoin de moi pour un autre genre de travail. Mercredi 11 novembre 1942. Nous avons entendu le bruit des bottes et vraisemblablement, nous l'entendrons encore pendant longtemps. Ce matin à 10h, la directrice affolée fait irruption dans la classe en nous ordonnant de rentrer rapidement chez nous parce que les Allemands arrivent et qu'il risque d'y avoir de la bagarre en ville. Lundi 22 février 1943. La déportation commence, ou plutôt, elle continue et s'élargit. On entendait déjà parler de trains qui emmenaient des juifs étrangers. On ne savait pas où, et pour faire, on ne savait pas quoi, mais on pensait à un genre de travaux forcés. 7 septembre 1944. Je vais avoir 20 ans, et j'ai encore tant de questions sans réponse. Par moments, la joie de la libération m'enivre, et puis soudain, j'ai le sentiment que je marche sur des cadavres. J'espère que je saurai être heureuse, mais je ne serai plus jamais innocente.
Il y a de superbes traboules par là.
C'est vrai que la Gestapo, dans les traboules, elle était complètement perdue. Quand on ne les connaît pas, on ne sait pas sur quoi on débouche, parce qu'une traboule en cache souvent une autre, c'est-à-dire qu'on tourne dans une autre traboule et on ne sait plus où on est.
Mais alors du coup, justement, vous nous disiez que les traboules, c'était une réputation un petit peu surfaite,
en tout cas
de son utilité dans la résistance.
C'est vrai. Mais enfin, c'était tellement joli de penser qu'il s'était échappé par les traboules que je crois qu'on a un peu, augmenté le nombre des gens que les traboules ont sauvés, mais c'est sympathique.
Alors on est rue René Lénaud. On vient de parcourir toute cette rue-là. Qui était René Lénaud ?
Alors René Lénaud était journaliste au Progrès. Lui, début 42, il était déjà entré au mouvement Combat. Et il était responsable du service sécurité, renseignement et journaux clandestins, bien entendu, puisque c'était son métier. Il habitait 6 rue Vieille Monnaie. C'était le nom de cette rue qui est devenue donc la rue René Lénaud, en souvenir de ce garçon courageux. Il a été arrêté le 16 mai 44 par la milice. Et la milice l'a livré à la Gestapo. Il a été enfermé à la prison de Montluc et fusillé à Villeneuve-dans-l'Ain le 13 juin 44, donc très peu de temps avant la libération de Lyon, puisque Lyon a été libéré le 2 et 3 septembre.
Je voulais... Il y a des résistants célèbres ici aussi, qui sont Raymond et Lucie Aubrac. Et il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, ils ont publié un appel qui disait que la résistance c'était pas une page d'histoire terminée et que ça n'avait de sens, la résistance, que si on la vivait au présent.
Alors, moi, je partage tout à fait ce sentiment. Il y a une phrase de Lucie Aubrac que j'aime beaucoup qui dit que le verbe résister se conjugue toujours au présent. Et je pense que c'est vrai. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut essayer en tout cas. Alors résister, ça veut dire pour moi pas forcément lutter contre, mais ça veut dire se tenir debout quoi qu'il arrive aussi, tout simplement. Voilà.